Chapitre 15. Gauche Brahman, les nouveaux clivages euro-américains. Nous venons d'étudier la transformation des clivages politiques et électoraux en France depuis l'après-guerre. En particulier, nous avons analysé la façon dont la structure classiste de la période 1950-1980 a graduellement laissé la place dans les années 1990-2020 à un système d'élites multiples, au sein duquel le parti des plus diplômés, la gauche brahmane, et celui des plus hauts revenus et patrimoines, la droite marchande, alternent au pouvoir. La toute fin de la période est marquée par la tentative de constitution en France d'un nouveau bloc électoral rassemblant ces différentes élites, dont il est trop tôt pour juger de la pérennité. Afin de mieux comprendre ces dynamiques et la multiplicité des bifurcations possibles, nous allons maintenant analyser dans ce chapitre le cas des États-Unis et du Royaume-Uni. Il est frappant de constater à quel point ces deux pays, en dépit de tout ce qui les différencie du cas français, ont suivi des évolutions globalement similaires à celles observées en France depuis 1945, avec toutefois des différences importantes et révélatrices. Nous poursuivrons ces comparaisons dans le prochain chapitre, en examinant le cas des autres démocraties électorales occidentales et est-européennes, ainsi que celui de plusieurs démocraties électorales non occidentales, comme l'Inde et le Brésil. La comparaison de ces différentes trajectoires nous permettra de mieux comprendre les raisons de ces transformations et leurs possibles évolutions futures. En particulier, nous tenterons dans le dernier chapitre d'analyser à quelles conditions il est possible de dépasser le piège social-nativiste et de dessiner les contours d'une forme de social-fédéralisme et de socialisme participatif permettant de faire face à cette nouvelle menace identitaire. Les transformations du système de parti aux États-Unis. Commençons par le cas des États-Unis. Nous allons procéder de la même façon que pour la France et examiner comment la structure socio-économique du vote pour les partis démocrates et républicains s'est transformée depuis 1945. Dans le cas états-unien, nous disposons d'enquêtes post-électorales à partir des élections de 1948. Ces enquêtes permettent une analyse relativement détaillée dont nous allons présenter ici les principales conclusions. Nous allons nous concentrer sur la structure des votes exprimés lors des élections présidentielles menées de 1948 à 2016. Il s'agit en effet des scrutins au cours desquels la dimension nationale du conflit politique s'exprime le plus clairement. Rappelons également que les candidats des partis démocrates et républicains ont généralement obtenu des scores compris entre 40 et 60% des voix au niveau national lors des élections présidentielles des années 1948-2016, le plus souvent avec des compétitions relativement serrées entre les deux partis. Voir graphique 15.1. Les scores obtenus par les autres candidats ont en règle générale été très faibles, moins de 10% des voix, avec toutefois l'exception du démocrate sudiste et ségrégationniste et ancien gouverneur de l'Alabama, George Wallace, en 1968, 14% des voix au niveau national, et de l'homme d'affaires Ross Perot en 1992 et 1996, 20% et 10% des voix. Dans ce qui suit, nous allons nous concentrer sur l'évolution du clivage démocrate-républicain et exclure les votes pour les autres candidats. Le premier résultat obtenu est le renversement complet du clivage éducatif. Lors de l'élection présidentielle de 1948, les choses étaient parfaitement claires. Plus les électeurs étaient diplômés, plus ils votaient républicains. En particulier, les électeurs de niveau d'éducation primaire et ceux qui n'ont pas terminé leur scolarité secondaire, soit au total 63% de l'électorat aux États-Unis à l'époque, ont voté pour 62% d'entre eux, pour le candidat démocrate Truman. Voir graphique 15.2. Parmi les diplômés du secondaire, soit 31% de l'électorat, le score obtenu est d'à peine 50%. Quant aux diplômes du supérieur, 6% de l'électorat, guère plus de 30% d'entre eux ont voté démocrate, et encore moins parmi les titulaires d'un master et de diplômes avancés, qui votent alors à plus de 70% pour le candidat républicain Dewey. On retrouve la même situation dans les années 1960. Le vote démocrate chute quand le niveau de diplôme s'élève. Le clivage éducatif commence à s'aplatir dans les années 1970 et 1980. Puis, à partir des années 1990 et 2000, le profil du vote démocrate devient de plus en plus nettement croissant en fonction du niveau de diplôme, en particulier au niveau des diplômés élevés du supérieur. Lors de l'élection présidentielle de 2016, on constate par exemple que les titulaires d'un doctorat, soit 2% de l'électorat pour eux tout seuls, ont voté à plus de 75% pour la candidate démocrate Hillary Clinton et à moins de 25% pour le candidat républicain Donald Trump. Or, le point important est qu'il ne s'agit pas d'un caprice d'intellectuel qui aurait soudainement quitté le parti républicain car ce dernier n'aurait pas su choisir un candidat raisonnable. Il s'agit, au contraire, de l'aboutissement d'une évolution structurelle entamée un demi-siècle plus tôt. De fait, si l'on examine l'écart entre le score obtenu par les démocrates parmi les diplômés du supérieur et les non-diplômés du supérieur, on constate qu'il n'a cessé de se creuser depuis les années 1950 et 1960 de façon graduelle et continue. L'écart était nettement négatif dans la période 1950-1970, moins 20 points en 1948, avant de devenir proche de zéro en 1970-1990, puis de devenir franchement positif au cours des années 1990-2020, plus 14 points en 2016, voire graphique 15.3. L'évolution est encore plus spectaculaire si l'on compare l'écart de vote entre les 10% des électeurs les plus diplômés et les 90% les moins diplômés, voire graphique 15.4. Cela est dû au fait que le clivage s'est également entièrement retourné au sein des diplômés de l'enseignement supérieur. Dans les années 1950 et 1960, plus le diplôme était avancé, plus le vote républicain était marqué. En 1948, le candidat démocrate a obtenu un score qui était de 21 points plus faible parmi les 10% des électeurs les plus diplômés que parmi les 90% les moins diplômés. Dans les années 2000 et 2010, c'est l'inverse. En 2016, ce score était de 23 points plus élevé parmi les 10% les plus diplômés. Les titulaires du bachelor degree, premier diplôme universitaire en 3 ou 4 ans, votent certes plus souvent pour le Parti démocrate que ceux qui sont simplement diplômés de l'enseignement secondaire, high school degree, mais ils le font avec moins d'enthousiasme que ceux qui ont atteint un master degree ou un diplôme avancé de medical school ou de law school qui eux-mêmes le font de façon moins marquée que les titulaires d'un PhD, doctorat. On trouve également la même évolution si l'on examine l'écart entre le vote démocrate parmi les 50% les plus diplômés et les 50% les moins diplômés. De la même façon que pour la France, on constate aussi que le fait de raisonner toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire de prendre en compte les effets des autres caractéristiques socio-économiques individuelles, n'affecte pas cette tendance lourde qui, de ce fait, apparaît extrêmement robuste. Dans le cas des États-Unis, on constate que la prise en compte des autres variables conduit à rehausser le niveau général de la courbe, ce qui s'explique principalement par le facteur racial. Ce facteur étant approximativement du même ordre tout au long du dernier demi-siècle, cela n'a aucun effet sur la tendance. Les électeurs noirs ont une plus forte propension au vote démocrate tout au long de la période étudiée, nous y reviendrons plus loin. Comme ils sont également moins diplômés, en moyenne, cela tend à réduire l'effet estimé du diplôme sur la propension à voter démocrate. Dès lors que l'on raisonne, toutes choses égales par ailleurs, parmi les électeurs blancs et parmi les électeurs noirs, l'effet du diplôme sur le vote démocrate apparaît plus nettement positif. De façon générale, il est frappant de constater la très grande similitude avec les résultats obtenus pour la France. De même que les partis socialistes communistes radicaux en France, le Parti démocrate aux États-Unis est passé en un demi-siècle d'une situation où il était le parti des travailleurs les plus modestes à un nouvel équilibre où il est devenu le parti des plus diplômés. Nous retrouverons des résultats similaires avec le parti travailliste au Royaume-Uni et les divers partis sociaux-démocrates en Europe, en particulier en Allemagne et en Suède. Dans tous les pays, l'expansion éducative est allée de pair avec un retournement du clivage éducatif sur le plan électoral. Dans le cas des États-Unis, le niveau général d'éducation était certes plus avancé qu'en Europe dans les années 1950, mais l'immense majorité de l'électorat était néanmoins peu diplômé. En 1948, 63% des électeurs n'avaient pas terminé leur scolarité secondaire et 94% de l'électorat étaient non diplômés du supérieur. Ces électeurs se reconnaissaient alors principalement dans le Parti démocrate. Par définition, une grande partie des enfants et des petits-enfants de ces personnes ont réalisé une mobilité ascendante dans la hiérarchie des diplômes. Or, le fait frappant est que, de la même façon qu'en France, seuls ceux qui ont connu une trajectoire très fortement ascendante ont continué de voter démocrate, alors que ceux qui ont eu moins de réussite dans le système éducatif ont eu tendance à se reconnaître davantage dans le Parti républicain. Le Parti démocrate va-t-il devenir celui des gagnants de la mondialisation? Pourquoi le Parti démocrate est-il ainsi devenu le parti des diplômés? Avant de tenter de répondre à cette question, il est intéressant d'examiner aussi l'évolution de la structure de l'électorat démocrate en termes de niveau de revenus. Compte tenu du rôle essentiel du niveau de diplôme dans la formation des revenus, il est naturel de s'attendre à ce que le parti des hauts diplômés finisse par devenir également et graduellement le parti des hauts revenus. De fait, on observe pour partie une évolution de cette nature. Au cours de la période 1950-1980, le profil du vote démocrate en fonction du revenu était nettement décroissant. Puis, la courbe est devenue de moins en moins fortement décroissante dans les années 1990 et 2000. Finalement, en 2016, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, on constate que le Parti démocrate a fait un meilleur score que le Parti républicain parmi les 10% des électeurs ayant les revenus les plus élevés. Voir graphique 15.5. Peut-on pour autant en conclure que le Parti démocrate est irrémédiablement en train de devenir le parti des gagnants de la mondialisation, à la façon de la nouvelle coalition internationaliste inégalitaire au pouvoir en France? Il s'agit sans aucun doute d'une évolution possible. Les choses sont cependant plus complexes et il me semble important d'insister sur la diversité des trajectoires possibles et la multiplicité des points de bifurcation à venir. Ces transformations politico-idéologiques dépendent avant tout des rapports de force et des capacités de mobilisation des différents groupes en présence, et rien ne justifie de les analyser comme des processus déterministes. De façon générale, nous avons vu dans le cas de la France que les classes les plus diplômées et les classes aux plus hauts revenus ne coïncident qu'imparfaitement, d'une part parce que de mêmes niveaux de diplôme peuvent conduire à des choix de carrière plus ou moins lucratifs, ou à une réussite plus ou moins prononcée sur le plan professionnel et monétaire. Et d'autre part, parce que l'obtention d'un revenu élevé dépend aussi de la possession d'un patrimoine, et que cette dernière dimension n'est qu'imparfaitement corrélée à celle du diplôme. De fait, les données disponibles suggèrent que la détention d'un patrimoine élevé a depuis toujours été fortement associée au vote républicain, et l'est restée en 2016, avec la candidature Trump, même si le lien s'est amoindri. Autrement dit, le système de partis aux États-Unis s'apparente nettement, au cours de la période 1990-2020, à un système d'élites multiples, avec une élite à haut diplôme, plus proche des démocrates, la gauche brahmane, et une élite à haut patrimoine et à haut revenu, plus proche des républicains, la droite marchande. Ce régime est peut-être en cours de basculement vers un système classiste où les élites des différentes dimensions seraient réunifiées au sein du Parti démocrate. Mais ce processus est encore loin d'être arrivé à son terme et il peut encore changer de direction pour de multiples raisons. Il faut également souligner que les limitations des données font qu'il est difficile de connaître avec précision la structure exacte du vote aux États-Unis. D'après les données disponibles, les 1% des revenus les plus élevés ont voté un peu moins fortement pour Hillary Clinton que les 10% des revenus les plus élevés dans leur ensemble. Mais les tailles d'échantillons et les questionnaires utilisés sont tels qu'il est impossible d'être parfaitement précis à ce sujet. De même, les informations dont nous disposons sur la détention de patrimoine dans les enquêtes post-électorales sont extrêmement rudimentaires aux États-Unis, beaucoup plus limitées qu'en France. Si bien que les estimations indiquées ici doivent être considérées avec prudence. Il semble que les plus hauts patrimoines aient continué de manifester une légère préférence pour le candidat républicain en 2016, mais les écarts sont tellement réduits que ceci reste relativement incertain. L'écart entre le pourcentage de votes démocrates parmi les 10% des patrimoines les plus élevés et les 90% les moins élevés est seulement de moins 4 points en 2016 contre moins 20 points en 2000. Voir graphique 15.6. Parmi les facteurs qui peuvent conduire à une poursuite de cette évolution politico-idéologique et à une unification politique graduelle des élites, il faut mentionner l'évolution de la structure socio-économique des inégalités aux États-Unis. D'une part, la forte croissance des très hautes rémunérations depuis les années 1980-1990 implique que les détenteurs de ces rémunérations, souvent issus de niveaux de diplôme élevés et de choix de carrière adéquates, ont pu accumuler des patrimoines importants en un temps limité. Cela a contribué à un rapprochement des élites à haute rémunération et des élites à haut patrimoine aux États-Unis depuis les années 1980-1990. D'autre part, le fait que le système d'enseignement supérieur soit devenu extrêmement coûteux pour les étudiants, sans compter que les dons parentaux permettent parfois de forcer l'admission, est un facteur structurel qui contribue à l'unification des élites brahmanes et marchandes. Nous avons déjà noté à quel point les chances d'accès à l'enseignement supérieur en général étaient fortement déterminées par le revenu parental aux États-Unis. Des travaux récents consacrés à l'admission dans les meilleures universités ont montré qu'un grand nombre d'entre elles recrutent une plus grande proportion de leurs étudiants au sein des 1% des familles aux plus hauts revenus que parmi les 60% des familles ayant les plus bas revenus. Ce qui signifie donc que les enfants du premier groupe ont 60 fois plus de chances d'être admis dans ces universités que ceux du second. La fusion des élites éducatives et patrimoniales ne sera certes jamais complète au niveau individuel, ne serait-ce que du fait de la diversité des aspirations et des choix de carrière. Il reste que, par comparaison à des pays où la marchandisation de l'enseignement supérieur est moins avancée, les États-Unis sont dans une situation où le système d'élites multiples a sans doute plus de chances qu'ailleurs de basculer vers une unification politique des élites. Il faut également souligner le rôle joué par le financement de la vie politique aux États-Unis. Dans un contexte où l'argent privé finance les partis et les campagnes, et où la Cour suprême a mis fin à tous les plafonds et règles antérieures, il existe un risque évident que les candidats représentent les intérêts des élites financières. Ceci concerne d'ailleurs aussi bien le Parti républicain que le Parti démocrate. On notera en outre que c'est le Parti démocrate, avec la candidature Obama en 2008, qui, pour la première fois, a choisi de renoncer aux fonds publics afin de pouvoir dépenser sans limite les fonds obtenus sous forme de dons privés. D'autres facteurs permettent cependant de douter de la viabilité à long terme d'une évolution qui verrait le Parti démocrate devenir le parti des gagnants de la mondialisation dans toutes ses dimensions, aussi bien éducative que patrimoniale. D'une part, les débats présidentiels états-uniens de 2016 ont montré à quel point il existait des différences culturelles et idéologiques persistantes entre les élites brahmanes et marchandes. Là où les élites intellectuelles insistent sur des valeurs de pondération et d'ouverture, et sur le rôle de la délibération et de la culture, à l'image de ce que Barack Obama et Hillary Clinton entendaient représenter, les élites du monde des affaires insistent sur les deals rondement menés, la débrouillardise et l'efficacité virile dont Donald Trump se veut l'incarnation. Autrement dit, le système d'élites multiples est sans doute loin d'avoir dit son dernier mot, car il repose au fond sur deux idéologies méritocratiques différentes et complémentaires. D'autre part, l'élection présidentielle états-unienne de 2016 a montré les dangers de se laisser décrire trop ouvertement comme le parti des gagnants de la mondialisation. Le risque est de se placer à la merci d'idéologies anti-élites de toute nature, et en l'occurrence de l'idéologie marchande nativiste développée par Donald Trump, sur laquelle nous reviendrons. Enfin, et surtout, cette évolution à long terme du Parti démocrate est fragilisée par le fait qu'elle ne correspond pas aux valeurs égalitaires d'une partie importante de l'électorat démocrate et des États-Unis dans leur ensemble. Cette insatisfaction s'est exprimée de façon très claire lors des primaires démocrates de 2016, où le sénateur socialiste du Vermont, Bernie Sanders, a fait presque jeu égal avec Hillary Clinton, en dépit du fait que cette dernière disposait de soutiens médiatiques autrement plus importants. Les débats en cours en vue de l'élection présidentielle de 2020, auxquels j'ai déjà fait allusion, avec les propositions de création d'un impôt fortement progressif sur les plus hauts patrimoines, notamment financiers, montrent à quel point rien n'est écrit d'avance. Toute l'histoire des régimes inégalitaires étudiés dans ce livre le démontre, les systèmes de justification de l'inégalité doivent avoir un minimum de plausibilité pour perdurer. Compte tenu de la très forte croissance des inégalités observées aux États-Unis et de la stagnation salariale constatée au niveau de la majorité de la population, il est peu probable qu'une plateforme politico-idéologique centrée sur la défense du statu quo néo-propriétariste et la célébration des gagnants de la mondialisation puisse l'emporter durablement. De même qu'en France et que dans toutes les autres parties du monde, la question à venir aux États-Unis est plutôt celle de la compétition entre les diverses alternatives possibles au statu quo et en particulier entre les idéologies de type nationaliste et nativiste et celles qui relèvent du socialisme démocratique, égalitaire et internationaliste.